Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je vous sers ?
Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Vous reprendrez bien un peu de SF ?
Ouais, oui, tiens.
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Il aurait dit « J'aime parler de moi ». Ce n'est pas de moi que je parle. Le succès de cette émission ne m'est pas monté à la tête au point de parler de moi à la troisième personne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Isaac Asimov. Isaac Asimov est né le 2 janvier 1920 à Petrovitchi, en Russie. 1920 ? Tiens, comme par hasard, la même année que l'invention du terme « robot ». Le mot « robot » est dérivé du tchèque « robota », qui veut dire « corvée » ou « besogne ». Vous vous dites que la coïncidence est trop belle pour être vraie, pour un écrivain qui sera connu en grande partie pour ses œuvres sur les robots. Eh bien, c'est peut-être le cas. Isaac Asimov est probablement né entre octobre 1918 et janvier 1920. Au début du XXe siècle, ce n'est pas faire injure à l'administration de Petrovitchi que de dire que quelques mois après la Révolution russe, le registre des naissances n'est pas forcément très bien tenu. Toujours est-il qu'il choisira cette date comme celle officielle de sa naissance. Je vous préviens, le monsieur est cabotin. En Russie, il ne restera pas longtemps. Sa famille décide de rejoindre les États-Unis en 1923, espérant une vie meilleure que celle d'une Russie post-révolutionnaire. La famille s'installe à New York et les parents achètent une boutique, qui va leur prendre tout leur temps, et donc laisser Isaac à son propre sort dès son plus jeune âge. Il trompe son ennui en écumant les bibliothèques du quartier, ce qui a tendance à le rendre bizarre pour les autres gamins du voisinage. Quand on y rajoute un profil de premier de la classe, ça n'aide pas à se faire des amis. Il a donc tout loisir pour dévorer toutes sortes de livres, d'histoire, de science, les œuvres classiques également. Mais dans la boutique parentale, il y a aussi ce que l'on appelle des pulps. Leur nom vient de la pulpe du bois qui sert à fabriquer le papier qui constitue ces revues. À ceci près que le papier utilisé pour les dites revues est de basse qualité, ce qui donne une image bas de gamme à ses publications. La famille est pauvre et Isaac n'a pas le droit de lire ces fameux pulps qui, selon son père, ne sont pas dignes d'intérêt. Il va bien entendu les lire, tout en prenant soin de ne pas les froisser, comme ça, une fois terminé, il les remet sur les présentoirs, ni vu ni connu. C'est de cette frustration que lui viendra l'envie d'écrire, pour enfin avoir des livres qu'il pourrait ranger dans sa bibliothèque. Écrire, oui, mais pourquoi de la science-fiction ? C'est toujours d'après Isaac, oui, je l'appelle par son prénom, le terme « science » qui aurait provoqué le déclic. Il a toujours été passionné par la science, comme on le verra plus tard. Et c'est sans doute un genre où l'imagination des lecteurs est la plus sollicitée. C'est ce qu'Asimov a toujours recherché, la stimulation intellectuelle. Il se disait particulièrement intelligent. Oh oui, ça, il a dit. Et il aurait un QI de 160. Tout était donc réuni pour qu'il devienne un écrivain de science-fiction. Mais ça ne s'improvise pas, et ses premières tentatives seront des échecs logiques. Ses velléités d'écrivain se concrétisent en 1931, mais ses différentes nouvelles sont systématiquement refusées. Son parcours scolaire et universitaire ne stoppe pas ses envies d'écriture, et il envoie régulièrement des lettres à la rubrique « Courrier des lecteurs » des différents magazines de SF. C'est en 1938 que tout va se décanter, Isaac a alors 18 ans et il rencontre John Campbell. John Campbell dirige la revue Outstanding Science Fiction et devient rapidement le mentor d'Isaac. C'est lui qui lui permettra de publier la nouvelle au large de Vesta le 21 octobre 1938. Il va alors publier régulièrement des nouvelles dans différentes revues. En parallèle, il poursuit ses études universitaires et décroche l'équivalent d'une maîtrise en chimie. Il a longtemps hésité entre la chimie et l'histoire, mais tout passionné qu'il était, c'est son côté pragmatique qui l'a emporté. Un diplôme en histoire ne lui aurait pas permis de rester près de New York, où se trouve sa famille et son cercle de passionnés de science-fiction. Mais il se révélera un lamentable chimiste. Nous voici le 7 décembre 1941. Un jour qui restera à jamais frappé d'infamie, comme le dira le président Roosevelt.
Mr. Vice President, Mr. Speaker, members of the Senate, of the House of Representatives, yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy.
Les États-Unis rentrent en guerre contre le Japon et vont recruter de nombreux scientifiques dans le cadre de la recherche militaire. Patriote, mais pas vaillant pour deux sous, de son propre aveu, il rejoint deux collègues écrivains de SF à la Naval Air Experimental Station pour participer à l'effort de guerre à son niveau. C'est pendant cette période qu'il va jeter les bases d'une œuvre qui fera de lui un écrivain reconnu. Passionné d'histoire, il veut la mêler à la SF. Il veut créer un univers complet. Il veut un contexte historique étoffé. Pas juste une évocation pour une œuvre. Il s'inspire de l'histoire bien réelle de l'Empire romain pour créer un empire à sa façon. Il commence par une nouvelle, puis deux, puis quatre autres. John Campbell lui demande d'en faire une saga complète, qui s'étalerait sur plusieurs siècles et qui verrait l'avènement d'une nouvelle science, la psychohistoire. C'est en 1951 que sort Fondation. Le cycle de Fondation est composé de 7 livres, mais pas sortis dans l'ordre. Les premiers, publiés entre 1951 et 1953, sont les épisodes 3, 4 et 5. Les épisodes 6 et 7 sont diffusés en 1982 et 1986. Les épisodes 1 et 2 sortent en 1988 et 1993. C'est bon, vous avez suivi ? La légende voudrait que George Lucas se soit inspiré de cet ordre de parution pour sa saga Star Wars. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Fondation ? Nous sommes 22 000 ans après notre ère. L'humanité a colonisé 25 millions de mondes à travers la galaxie et compte 1 trillion d'êtres. 1 trillion, c'est 1 milliard de milliards. Tout ce monde prend place au sein d'un empire galactique vieux de 12 000 ans. Le premier protagoniste s'appelle Harry Seldon. Il est mathématicien et il a créé une nouvelle science, la psychohistoire. C'est un mélange de psychologie, d'analyse statistique et de calcul de probabilité. Seldon va voir l'empereur et lui annonce la chute prochaine de l'empire, qui sera suivie d'une période trouble de 30 000 ans. Rien que ça. Le psychohistorien lui propose alors de créer une fondation dont le but sera de réduire cette période sombre à une durée de 1000 ans. Cette fondation est basée sur la planète Terminus et commence la rédaction d'une Encyclopédia Galactica qui accumulera toutes les connaissances de l'humanité pour les préserver lors de la période sombre qui viendra. Mais ça, c'est le côté officiel. car il existe une seconde fondation, plus discrète, qui a une toute autre mission. Une des particularités de cette saga, ce sont les ellipses, qui vont de quelques années jusqu'à 2 siècles. Du coup, les personnages qui ne sont pas immortels changent. Ça peut être un poil compliqué à suivre. Autre élément récurrent dans l'œuvre d'Asimov, les robots. Ses écrits ont tellement marqué que la robotique moderne s'inspire des 3 lois de la robotique dites d'Isaac Asimov. Les 3 lois, les voici. Première loi, un robot ne peut blesser un être humain ou, par son inaction, permettre qu'un humain soit blessé. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres d'un humain, sauf si ses ordres s'opposent à la première loi. Troisième loi, un robot doit pouvoir se protéger tant que cette protection ne s'oppose pas à la première ou la deuxième loi. Un bémol toutefois concernant la paternité de ces 3 lois. Elles auraient été soufflées par son mentor John Campbell, évoqué un peu plus tôt. Il est clair que ce dernier a été capital dans l'éclosion du talent d'Asimov, qui n'aurait peut-être pas été l'auteur que l'on connaît sans son aide. Toujours est-il que l'approche de la robotique par Isaac est un poil différente que celle qu'il a connue dans les pulps de son enfance. Pour lui, les robots ne sont pas des créatures qui fatalement se retourneront contre leur créateur. Un robot est une machine logique, le travail d'un ingénieur. Pas celui d'un savant fou. Un robot doit toujours être guidé par des lois, ce qui l'empêcherait de faire une Frankenstein, c'est-à-dire de causer la perte de son créateur pour quelque raison que ce soit. Ce qui fait de ces robots des machines polies, dénuées de toute malice, mais tout de même un peu limitées, avec une compréhension limitée du second degré. Comme dans la nouvelle Le Petit Robot Perdu, où un humain qui, un poil agacé par la prévenance un peu trop appuyée d'un robot, va lui dire, je le cite, 2 points, ouvrez les grimiers, va te perdre. Ce qu'il va faire avec la plus grande des applications. Dans cette nouvelle, on croise le docteur Suzanne Calvin. Elle est robot-psychologue et apparaîtra régulièrement dans les écrits d'Asimov, ainsi que dans le film iRobot. J'y reviendrai. Autre personnage récurrent, Elijah Baley. C'est un inspecteur de la police new-yorkaise. Il apparaît pour la première fois en 1953 dans le livre Les Cavernes d'Acier. Dans cette histoire, il doit résoudre le meurtre d'un spatien. Les Spaciens sont la première génération d'humains à avoir colonisé l'espace. 50 mondes pour être précis. Bien qu'originaire de la Terre, les Spaciens la dénigrent, elle et ses occupants. Les considérant comme des ancêtres arriérés, sales et grossiers. Il faut dire qu'ils n'ont pas forcément de quoi faire rêver. L'humanité est regroupée dans d'immenses cités souterraines. Ils habitent dans des logements communautaires où tout est partagé. Même les cuisines domestiques n'existent plus. Tout le monde mange au réfectoire. Et donc, un Spacien a été tué par un terrien. Et pour éviter qu'il ne vienne le venger en vaporisant la ville de New York, on demande à Elijah d'enquêter en compagnie d'un Spacien un peu particulier, un robot à l'allure humaine dont seule une lettre révèle son origine, le R. R. Daniel Olivao. Mais Baley est robophobe, comme une grande partie de la population terrestre. Ils sont accusés de voler le travail des humains. Un point d'achoppement supplémentaire du point de vue des Spaciens, qui, eux, ne jurent que par les robots. Mais finalement, la cohabitation entre l'inspecteur et le robot ne se passe pas trop mal. Les Cavernes d'Acier sort en 1953. À cette époque, Isaac Asimov n'est toujours pas écrivain à temps plein. Depuis 1949, il est professeur de biochimie à l'université de Boston. Il en est viré en 1958, pas forcément pour un point technique, mais c'est son caractère qui pose problème, et ce depuis sa plus tendre enfance. C'est une forte tête. Il déteste avoir tort et le fait savoir avec véhémence, ce qui agace ses supérieurs. Et logiquement, le 30 juin 1958, ses attributions à l'université de Boston prennent fin. Il va donc se consacrer entièrement à sa carrière d'écrivain, qui a modestement commencé il y a déjà 20 ans. Il va écrire près de 500 livres, pas seulement de la SF, mais aussi de la vulgarisation sur divers sujets. L'astronomie, la Bible, Shakespeare, ainsi qu'un livret annoté sur l'œuvre de Gilbert et Sullivan, un duo de compositeurs d'opérette de la fin du 19e siècle. Young man despair, likewise go to, yum yum the fair, you must not go. Malgré une production très abondante, c'est le moins qu'on puisse dire, seulement deux films seront adaptés à partir de ses œuvres. Il semblerait qu'il ne souhaitait pas que l'on dénature ses histoires et que son média préféré était le livre. Pour en revenir à iRobot. Il ne s'agit pas d'une adaptation simple, mais plutôt l'amalgame de plusieurs histoires et personnages qui ont régulièrement jalonné les textes d'Asimov. Le docteur Calvin, le détective Bailey, renommé Splinter dans le film, le professeur Lanning et le robot Nestor. Mais ce film est plus un blockbuster qu'autre chose. Le seul exemple d'adaptation fidèle d'après les proches d'Asimov est le film L'homme bicentenaire de Chris Columbus, sorti en 1999. Tout à fait dans un autre style. Si on devait le définir, ce serait une comédie romantique sur fond de quête d'humanité par un robot. L'esprit est, on va dire, naïf, gentillet, mais pas bébête pour autant. Il y a une véritable réflexion sur la définition de ce qu'est un être vivant. Mais Isaac Asimov ne vira ni l'un ni l'autre. Il décède le 6 avril 1992 d'une insuffisance cardiaque résultant d'une infection au VIH. Il a été contaminé en 1983 par transfusion sanguine lors d'une opération chirurgicale. À l'époque, les tests n'étaient pas systématiques sur la présence du virus du sida et on en savait beaucoup moins à son sujet. Cette information n'a toutefois été révélée qu'en 2002, de peur que l'auteur, sa famille et ses médecins ne soient victimes de préjugés. Isaac Asimov avait une personnalité volubile. Il était extraverti et il aimait capter l'attention lors de réunions. Il avait aussi tendance à être tactile, voire pressant envers les femmes qu'il pouvait rencontrer. On peut même parler de harcèlement. Je ne voulais pas faire un portrait à la gloire de l'écrivain, mais rendre compte que toute personne a des failles, plus ou moins pardonnables. Isaac Asimov est une figure de premier plan de la littérature de science-fiction. Il a inspiré de nombreux lecteurs de par le monde, dont votre serviteur. Même si son style n'est pas consensuel, il aura participé à donner ses lettres de noblesse au genre en créant des univers qui se sont développés au-delà du temps humain. Il aura su établir les bases de la robotique fictionnelle d'une manière si fine et si poussée qu'elles sont arrivées dans notre monde. Et ça, c'est certainement le meilleur hommage qui pouvait lui être rendu. Ce mois-ci, Guillaume de l'association La 29e Dimension à Quimper va nous parler de la genèse d'une nouvelle religion.
Le livre de Dave, écrit par Will Seff, édité en France chez L'Olivier puis en format poche chez Point, c'est donc en 2010 que paraît cette histoire de remords et de rancœur qui, concentrée dans un livre, devient une religion 5 siècles plus tard. Lecture du résumé. Dave Rudman, chauffeur de taxi londonien, fulmine contre les Noirs, les Juifs, les Arabes, les bourgeois et les touristes. Il déverse son fiel dans les écrits qu'il enterre dans le jardin de son ex-femme. Cinq siècles plus tard, après un terrible déluge, on retrouve ses élucubrations. Le livre de Dave devient la référence spirituelle du Nouveau Monde. Et si le pire des hommes devenait un messie ? En voilà une drôle d'histoire, celle d'un homme mal marié qui divorce et voit son fils pendant la guerre alternée. Dave Rudman est un chauffeur de taxi londonien, raciste, antisémite, misogyne et misanthrope, bref, un pauvre type. Toute cette haine, il la consigne dans un livre à destination de son fils, Carl. Le conflit avec la mère de son fils nourrit sa haine. L'auteur la décrit comme une garce arriviste. Pour marquer le coup, il fait graver ses écrits sur des pages métalliques, puis enterre son chef-d'œuvre dans le jardin de son ex-femme. Le temps passe, un déluge cataclysmique provoque la montée des eaux dans le monde et l'Angleterre devient un archipel d'îles. Et 5 siècles plus tard, dans ce roman, dans ce nouveau monde, où règne dans les cerveaux l'obscurantisme, les survivants découvrent le livre de Dave et en font un messie. Deux genres littéraires se détachent dans ce roman, le genre dramatique et le post-apocalyptique. Comptabilisant 16 chapitres pour deux histoires enchevêtrées, on suit le parcours de Dave qui, dans son monde de haine, voit son fils comme une lueur d'espoir. Malheureusement, il voit son petit de façon épisodique, son ex-femme s'arrangeant pour le frustrer encore plus. Et dans le futur, de l'an 509 à 524 AD pour après Dave, les rôles s'inversent et c'est Carl Devust qui recherche son père, Simon, ou plutôt le gus, comme on dit dans ce futur, où le langage est basé sur la phonétique. Là-bas, on parle de Mokni, une langue obscure et curieuse, où le ciel se dit pare-brise, le soleil l'entre brouillard, les prêtres sont des chauffeurs, et leurs oreilles des clients. Mais l'auteur ne s'arrête pas à retranscrire le vocabulaire du métier de chauffeur de taxi. Il va plus loin, et ainsi, un cours d'eau devient un cours d'évian, et le Made in China signifie la création. Pour vous faire une idée, voici une citation de la page 98. « Ouais, bon, commença Simon, avez-vous tous capté que je suis allé traîner dans la zone ? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai été salué par Dave, voyez-vous, et que je suis son client. Il faut le lire pour s'en rendre compte, car c'est en majorité du langage SMS. » Chapeau bas au traducteur français qui a parfaitement retranscrit la vision de l'auteur d'un vocabulaire décalé mais crédible. Simon Devust, que son fils Carl recherche, est un adepte de cette religion née du livre de Dev et appelée le Devinisme, un mouvement spirituel qui prône une séparation radicale des sexes et la garde alternée des enfants. Une religion d'intolérance et de rigidité imposée au nom de Dave. Simon veut changer cela et pousser le Devinisme vers davantage d'humanité. Dans ce roman, Will Self organise le dépeçage de nos sociétés avec acide et provocation. Les élucubrations de Dave traduisent une anticipation sociale à charge contre les religions. Lire le livre de Dev, c'est comprendre comment un anti-héros devient un prophète.
Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro de Vous reprendrez bien un peu de science-fiction.